C'est le moment où je vais vous donner la parole. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On va vous faire passer le micro puisque c'est une table ronde qui est enregistrée à la radio. Et voilà.
Bonjour. Nous, on vient en tant que futur PE, professeur des écoles. Et on aimerait savoir si c'est possible du coup de se syndiquer en tant que futur professeur et de participer à ces fameuses formations EVAR ou EVARS. Parce qu'à l'INSPE, on nous en parle, mais très succinctement. Donc on va enseigner peut-être potentiellement à la rentrée prochaine. Et en fait, on ne sait pas forcément de quoi on parle si on n'a pas eu la chance d'être en stage avec des enseignants qui abordent correctement le sujet. Enfin, correctement. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait.
Tu es en quel en master,
master 1, 2 ouais.
Master 1
Oui.
OK. Et à Saint-Jérôme ou à...
Non, à Avignon.
À Avignon. Alors ça, il faudra se rapprocher du SNUPP du 84.
D'accord.
Mais par exemple, nous, là, notre ambition, c'est effectivement... Enfin, notre ambition, parce que ce qu'on souhaiterait mettre en place aux INSPE, donc de Marseille et d'Aix-en-Provence, puisque c'est notre département, c'est de créer des petites formations entre midi et deux avec les étudiantes et les étudiants. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement possible. Donc je peux en parler avec les collègues du 84 pour savoir s'ils envisagent de faire ça. Mais voilà, donc c'est totalement possible. Si tu veux te syndiquer, tu peux également te syndiquer, participer aux formations qu'on organise. Donc là, tu vas sur le site du syndicat et tu as la liste de tous les stages que l'on peut proposer. Tu peux bien évidemment y participer sans problème.
Vous pouvez rappeler le nom du syndicat ?
Alors, le mien ? Donc c'est la FSU SNUIPP, SNUIPP.
Peut-être on peut ajouter que n'importe quel salarié ou fonctionnaire a 12 jours de formation syndicale par an, obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais je veux dire, c'est garanti par la loi. Donc on a le droit de les prendre, ces 12 jours. Et ces 12 journées par an, elles peuvent servir à se former auprès des syndicats. Il y a des syndicats qui proposent des contenus sur les VARS. Il y a donc ton syndicat, mais il y a aussi Sud-Éduc... qui est en train de bosser là-dessus.
Bonjour. Je suis venu avec mon groupe d'amis aujourd'hui pour voir, pour venir ici. Et j'ai une question. C'est pas les mêmes questions que vous parce que moi je suis petit et tout. J'arrive pas à parler de vous. Mais pourquoi à l'école on parle moins de la sexualité, des maladies et tout comme ça? C'est une question de Boureb et il avait honte. Du coup, je me suis.
Tu dis on en parle moins enfin, que quoi? Moins en fait, qu'avant ou ben moins
non,
que...
Enfin, non, enfin, on n'en parle pas du tout, alors qu'il y a des gens qui viennent et tout, mais on n'en parle pas assez, je trouve, comparé à peut-être d'autres, je sais pas. En tout cas, nous, on n'en parle pas assez. C'était ça, ta question, Bourim.
Vous êtes à quel niveau, établissement enfin, c'est...
Là, je suis passé au lycée, là. Et au lycée, on n'en parle pas du tout.
Et vous n'avez pas eu d'intervention avant, même au collège
Si, au collège, mais une seule fois. Alors qu'on a beaucoup de cours. Et alors, comment on croit qu'une seule fois, alors qu'on a des jours et des jours de cours?
Merci, oui, pour ton témoignage qui vient, en fait, qui correspond, en fait, à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a quoi, peut-être même pas 15 à 20% des élèves qui ont vraiment fait de l'EVARS, à qui on a vraiment régulièrement parlé de sexualité. Et c'est une réalité, en fait. Il y a un programme cette année qui se met en place, je le répète, parce que je pense que vous n'étiez pas là au début, et où, justement, qui incite les enseignants, l'institution, l'école à davantage en parler. Voilà. Mais ce que tu nous dis, ça ne m'étonne pas du tout, puisque en fait, il y a peut-être 15 à 20% seulement des gens de ton âge à qui on a parlé régulièrement de ces questions, parce que il n'y avait pas une vraie politique, une vraie volonté politique, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, de formation, parce que ça ne s'improvise pas aussi de parler de ces questions-là à des élèves. Il faut aussi qu'on soit formés, nous les enseignants.
D'accord. Voilà. Merci, madame.
Mais j'espère que ça va changer.
Pas de problème.
Bonjour. Samy pour le centre social de la Capelotte. Moi, j'ai une question. J'ai un petit frère, il est en CM1 et j'ai entendu son prof parler de sexualité. Je voulais juste vous demander si, à son âge, est-ce qu'ils vont parler de ça? Et s'ils vont parler de ça, j'ai un truc à dire.
Mais ça, c'est quoi?
La sexualité.
Oui. D'accord. Oui, mais alors, dans les programmes de... de l'école primaire, donc c'est les VAR, donc il n'y a pas le terme sexualité dans la mise en œuvre des programmes. Après, dans la mise en œuvre des programmes EVAR, il y a plusieurs axes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je ne sais pas quel est l'axe du collègue, enfin, qu'est-ce que le collègue va aborder dans la classe. En tout cas, ce ne sera pas directement lié à la sexualité, mais ça peut être par exemple qu'est-ce que le consentement, ou par exemple savoir à l'école primaire, savoir nommer les parties du corps, voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, la sexualité en tant que telle n'est pas dans les programmes dans le premier degré.
Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi tu aurais quelque chose à dire. Ouais. Qu'est-ce qui te choquerait qu'il soit abordé, par exemple, pour ton petit frère ?
Que c'est pas normal, parce que c'est encore un enfant, il est inconscient. Et il est venu à la maison, il est rentré, il a parlé, il nous a dit de ce qu'ils ont travaillé. Et ils ont travaillé sur les parties intimes des hommes et des femmes. Qu'une femme, elle a le droit de devenir un homme, qu'un homme, il a le droit de devenir une femme. Moi, je ne suis pas contre ça. Chacun fait sa vie, mais je préfère que mon petit frère, à son âge, il n'entend pas ça.
Le problème, c'est que ton petit frère, il en a peut-être entendu parler. On parle de sexualité dans la vie, en dehors de l'école. Donc, il a énormément de représentations. Donc, c'est important aussi qu'il puisse poser des questions. Notamment, pourquoi pas à son professeur, il explique simplement la réalité des choses. Qu'est-ce qui est choquant dans ces choses-là?
Ben, c'est pas lui qui a posé les questions. C'est le prof qui leur a directement parlé de ça. C'est lui qui aurait posé les questions, oui, mais là, c'est pas lui qui a posé les questions.
Oui, du coup, j'ai l'impression que ce qui peut être perturbant, c'est de se dire il va recevoir des infos qu'il a pas demandé parce que c'est en collectif. Et moi, je pense qu'on ne peut pas garantir à toute personne qui se pose des questions que les enseignants, ils auront toujours des discours adaptés à tout le temps. D'ailleurs, il y a plein d'instits et de profs qui disent des dingueries à tous les niveaux, à nos élèves. Enfin, il y a plein de choses qu'on est obligé de reprendre à la maison parce que les enfants, ils ont entendu des dingueries à l'école. Mais après, si on s'en tient vraiment aux programmes tels qu'ils sont pensés, il n'y a rien qui peut faire effraction, qui peut traumatiser un enfant, quel que soit son âge. C'est vraiment adapté à chaque fois à l'âge des enfants. C'est-à-dire, par exemple, si on est en CM1 et qu'un enfant demande comment on met une capote, ben, normalement, l'enseignant, il ne va pas répondre au groupe. Il va peut-être après prendre l'élève à part et lui demander pourquoi il a posé cette question, etc. Mais ça ne fait pas partie des programmes.
Et surtout, s'il pose la question, ça veut dire aussi qu'il a été confronté à ces questions-là. Donc, à un moment donné, on va lui dire dans le groupe classe, c'est peut-être, voilà, c'est pas le moment, mais ça permet à l'enseignant d'en discuter à part avec lui pour savoir où est-ce qu'il à quoi il est confronté à l'extérieur. Est-ce qu'il est confronté à des choses, par exemple, qui ne sont pas de son âge, etc. Ça permet aussi de déceler et éventuellement de déminer certaines situations.
Et sur les questions d'anatomie, je rajouterais, puisque c'était ça aussi qui était le sujet, je pense, du cours de ton petit frère. L'enjeu en premier degré, c'est pas d'aborder les questions de sexualité, c'est de nommer les parties du corps. Et cet enjeu-là, en fait, il a été posé à ces âges-là. Il commence même plutôt sur vraiment l'importance de nommer les parties du corps comme il faut, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi un outil de prévention pour lutter contre les violences faites aux enfants sur ces questions-là. D'arriver à nommer les parties de son corps avec les bons mots, c'est aussi arriver à un moment donné, si par exemple un adulte nous fait quelque chose, de pouvoir nommer, en fait. Et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment un enjeu de prévention des violences faites aux enfants. Donc il y a l'enseignant, le prof, il est là pour donner, on va dire, des faits sur l'anatomie. Mais par contre, à ce niveau-là, tu n'auras pas de cours dédié de dire un rapport sexuel ou j'en sais rien. Ça vient plus tard, en fait. Tout est vraiment adapté à où en sont les enfants. Et ça va être vraiment progressif dans le sens où, sur cet enjeu vraiment d'anatomie, ça commence à partir de la maternelle de lire des ouvrages qui sont adaptés, encore une fois, hein, c'est des ouvrages jeunesse qui sont adaptés à cet âge-là, d'arriver à mettre des mots, parce que peut-être à la maison, c'est pas des mots qu'on utilise, mais donc là, du coup, on va les partager tous ensemble, d'avoir un peu un lexique commun sur ces choses-là. Et ensuite, progressivement, avec les années d'école, on avance sur ces questions-là. Je sais aussi que sur le cycle CM1, CM2, par exemple, il y a toutes les questions liées à la puberté, parce que son corps, il change. Et donc, de dire, notamment, on va parler des règles. Alors, les règles, peut-être que, effectivement, ce n'est pas un sujet facile, qu'on n'a peut-être pas envie d'en parler, etc. Mais en fait, on se retrouve aussi avec des enfants qui ont leurs règles et qui ne savent pas ce que c'est. Donc, l'enjeu, en fait, c'est de se dire, on se réapproprie ces notions. Et on les partage en classe à des niveaux et à des âges où on est en capacité de comprendre, d'apprendre et de partager aussi des questionnements, quoi. Mais l'enjeu, c'est vraiment, pour moi, en fait, c'est vraiment de dire que ton petit frère, il soit rentré avec ses questionnements. Bah, au moins, il en a parlé avec vous aussi. C'est pas d'en faire un secret ou un tabou, tu vois. C'est aussi un peu une continuité entre ce qui se passe à l'école et ce qui peut se passer à la maison. Et de fait, ensuite, après, vous pouvez en discuter. Que toi, tu sois pas d'accord avec ce qui a été partagé, lancez la discussion. Mais au moins, que ce ne soit plus un tabou de parler de ces questions-là. Parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on est sur des questions qui sont des tabous et ça mène à des choses où 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles et le silence, le poids du silence qui est sur ces questions-là.
Personnellement, je pense que c'est plus aux parents de parler de ça.
Mais le problème aussi, c'est que la plupart des violences sont commises au sein de la famille. Donc, si on laisse uniquement la famille faire cette éducation, il y a toute une... Voilà, il faut savoir que c'est là que ça se passe. Donc, il y a de nombreuses familles qui ne seront pas capables de répondre à ces questions.
Et donc. C'est pensé quand même comme une... C'est pensé quand même comme une coéducation aussi, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas, mais on apporte parfois bah justement d'autres mots qui sont utilisés, des mots différents, mais qui permettent de communiquer aussi, de lancer des signaux aussi aux médecins pour repérer. Enfin, voilà, je ne reviens pas sur ce que tu disais, mais ça n'enlève pas en fait ce qui est apporté dans la famille. Et si on en parle dans les familles, ben, tant mieux. Mais c'est comme quelque chose qui est apporté en parallèle en fait, quoi. Qui peut aider en plus, c'est pas en moins, quoi, hein, c'est en plus. Et juste, tu disais que c'était un outil pour lutter contre les violences, et il y avait aussi dans ce que tu disais, peut-être quand on aborde peut-être l'idée que certains enfants ou personnes pensent à la transidentité ou autre chose, je pense que là, c'est aussi un des axes de l'EVAR, c'est en fait de lutter contre les discriminations, d'accepter les différences. Ça ne veut pas dire que, bah, il faut faire comme ça, il faut changer forcément de genre. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens pour qui c'est une réalité et que bah, c'est OK. Et que, voilà, c'est expliquer aux enfants très tôt que ce n'est pas parce qu'on n'est pas pareil que ce n'est pas des choses d'acceptation des différences, quoi. Et c'est un des enjeux aussi du programme.
Moi, je veux bien juste rajouter quelque chose, c'est que moi, je comprends carrément ce point de vue de dire, par exemple, tel truc, c'est quelque chose qui devrait plus être abordé par les parents, parce que les parents, ils en parleraient peut-être pas de la même manière. Moi, personnellement, en tant que parent, il y a plein d'enseignements qui sont faits à l'école, je suis pas d'accord avec. Par exemple, comment on parle d'histoire, on raconte encore l'histoire de manière colonialiste, de manière raciste, comment on parle de la soi-disant égalité filles-garçons, ben, moi je suis pas du tout non plus là-dedans, et il y a plein d'enseignements qui sont faits, je les reprends à la maison, je les complète, je donne aussi mon point de vue et je le dis quand je suis pas d'accord avec ce qui est dit en classe. Donc je pense que c'est... Je veux dire, l'école, c'est aussi une institution de l'État et on n'est pas forcément OK avec tout ce qui se dit et comment ça se dit. Mais je pense que nos enfants, en tout cas, ils font la part des choses et ils font leur petit chemin avec tout ça. Ils entendent des trucs à l'école, ils viennent rechecker. Est-ce que mes parents, ils pensent la même chose ? Donc là, le petit frère, il vient rechecker, tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent dans ma famille ? Et puis, il va se faire son idée, en fait, avec ce qu'il a entendu dans les différents endroits. Donc, je pense que c'est hyper important que dans la famille, on continue à faire de l'éducation avec nos enfants. De toute façon, on le fait. Hein. Et pour moi, c'est OK que l'école ne dise pas la même chose que moi. C'est un endroit qui apporte un contrepoint. Voilà, c'est pas forcément... Enfin, j'ai pas l'impression que mon enfant va se faire brainwash par l'école, quoi. Je pense que mon enfant a son esprit critique.
Et juste sur cette question de transidentité, j'en profite pour vous dire qu'à 17h, il y aura un plateau radio, toujours avec Radio Galère, sur les violences faites aux mineurs trans, avec l'association Transat, et le collectif Transvénère. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ?
Oui. Là, merci. Oui, pas de souci. Bonjour. Du coup, moi, j'avais une question parce que, du coup, j'ai ma fille qui est rentrée au CP cette année, donc elle a 6 ans. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment aucune info sur tout ça, sur les VAR, de la part de l'école. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'aussi c'est pour ça que beaucoup de parents sont pas d'accord. Parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qui est proposé, ce qui est abordé dans ces moments-là à l'école. Et du coup, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, du coup, c'est les enseignants ne sont pas obligatoirement formés en fait à ces questions-là. Du coup, si j'ai bien compris ce que vous avez dit.
Alors. Oui, effectivement, il n'y a pas de formation pour enseigner les VAR à l'école. Cependant, il y a des programmes qui cadrent quand même spécifiquement cet enseignement. Donc, il y a quand même des grands repères qui permettent de se situer dans les apprentissages. Après, ce qui est possible, c'est... je sais pas, il y a une association des parents d'élèves sur l'école ?
Oui.
Oui. Ouais. Après, c'est peut-être déjà d'en discuter avec la directrice. Est-ce que ça a été discuté en équipe ? Est-ce que ça va être... Peut-être que tout simplement, ça ne va pas être mis en œuvre cette année. Enfin, je ne sais pas. Savoir qu'est-ce qui est prévu.
Du coup, ça peut être mis en place, peut-être pas forcément cette année, du coup.
Je ne peux pas répondre à la place des collègues. Mais en fait, il faut leur poser la question. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre collectivement sur cette question ? Et voilà, après, ça peut être aussi en conseil d'école. Ça peut être un point qui peut être à l'ordre du jour du conseil d'école. Voilà, Evar, qu'en est-il ? Quelle serait la place des parents aussi pour pouvoir aider à la mise en œuvre ? Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, voilà, je pense que il faut pas hésiter à interpeller à la fois les enseignants. Mais là, je dirais que c'est plutôt la directrice ou le directeur, puisque c'est, à mon avis, un enjeu d'équipe. Donc c'est elle qui doit être ou lui qui doit être en mesure de répondre.
Merci. Moi, en tant qu'ancienne élève de lycée, j'ai remarqué... j'ai eu que des interventions justement au lycée, mais je pense que je suis pas le seul à en avoir eu pas beaucoup. J'ai remarqué que, en fait, les élèves arrivaient avec déjà leurs idées, leurs a priori, leurs opinions, leurs informations sur tous ces sujets. Donc, entre ceux qui s'y intéressent, ceux qui, au contraire, n'ont absolument rien à faire. Et qu'en fait, ça pose un peu des problèmes parce que ça fait qu'il n'y a pas trop d'échanges, pas trop de débats, en plus du fait qu'il y a un tabou. Et je me demandais, par rapport à ça, comment vous, professeurs, vous faites pour essayer que, faire qu'il y ait débat, qu'il y ait de la parole, que les élèves puissent... arrivent à dire et qu'il y ait vraiment des moments de discussion entre élèves, intervenants et professeurs et que les idées puissent être remises en question quand justement les élèves ont déjà leurs a priori, leur tout enfin, déjà préconstruit.
Je peux répondre un petit peu, puis après laisser la parole aussi au planning familial, parce que moi, c'est en les regardant travailler aussi que j'ai vu faire. C'est-à-dire que l'objet de ces séances, c'est bien souvent aussi de partir des... Enfin, de déconstruire, enfin, d'essayer d'interroger justement les idées avec lesquelles les élèves arrivent et de les déconstruire pour créer justement ensuite, trouver des espaces de dialogue. Donc, enfin voilà, je crois qu'il y a, c'est, en fait, c'est intéressant parce que ça t'interpelle, parce que en fait, tu n'as probablement eu qu'une ou deux séances, et c'est là où on voit que si c'est un enseignement qui devient régulier, qui devient quelque chose de plus présent, hein, c'est parce que déconstruire des stéréotypes et des préjugés, ça se fait pas comme ça là en 10 minutes. Donc c'est un travail au long cours, quoi, et c'est une culture dans laquelle il faut être un peu imbibé, enfin je crois. Hein. Et voilà, donc c'est vrai que ces interventions ponctuelles ont souvent l'avantage d'enfoncer un peu des portes, de chambouler un petit peu peut-être. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un travail de fond à mener, je crois.
Bah, en tout cas, au planning familial, effectivement, on dit de nous qu'on est un mouvement d'éducation populaire. Et en fait, tout ça, c'est pas juste des 20 mots, c'est vraiment partir des connaissances, partir des idées reçues. Et par des activités, par des outils qui sont à notre disposition, faire que la parole émerge. Et pour moi, l'enjeu, il est vraiment principalement là-dedans, d'arriver à effectivement interroger, mais surtout à faire ensemble, à réfléchir ensemble et à se questionner ensemble. Et puis bien sûr, après, en tant qu'animateur, animatrice, on est là pour donner des infos factuelles s'il faut, répondre à des questions précises, donner des ressources aussi. Il y a plein de ressources qui existent. On est là aussi un petit peu pour faire cette transmission-là. Moi, ça me fait aussi pas mal penser, effectivement, à l'enjeu que ça devienne une habitude de la scolarité de parler de ces questions-là, parce qu'effectivement, ben, ça voudra dire qu'on n'en parle pas une seule fois dans l'année, et cette fois-là, il faut qu'on pense à tout ce qu'on a dans la tête sur ces questions-là. Au planning familial, on a repris un programme qui vient du Canada, qui est le PRODAS, donc c'est un programme de développement des compétences psychosociales. Et en fait, au Canada, il est mis en œuvre depuis des années de manière régulière dans tous les niveaux. Et on s'est rendu compte en fait des effets concrets de ce programme s'il est mis en place de manière régulière, s'il y a de la parole qui circule de manière régulière entre les enfants. Et tout ça, ça ne va pas être seulement à l'école. Ça va être aussi tout ce que tu amènes avec toi dans la famille, de relations avec les autres, avec les parents, etc. Donc je pense qu'effectivement, l'enjeu de l'EVARS, là où il y a quelque chose de primordial, c'est la régularité et le fait que ça devienne vraiment quelque chose qui fasse partie de la scolarité de l'enfant, comme le cours de maths, comme le cours de français, etc. Parce que sinon, ça veut dire que oui, une fois dans l'année, il faut qu'on sorte toutes nos idées reçues et ça suffira pas, quoi, d'en parler 2 heures. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Camille.
Non, je pense que vous avez tout dit. Hein. Je pense qu'effectivement, le lycée, on est déjà grand, quoi. Enfin, il y a déjà plein de trucs qui se sont fixés, en fait. Et que du coup, c'est pas pour rien, en fait, que les programmes, ils commencent à 3 ans. Il y a besoin de travailler ces notions au fil des ans, quoi.
Et juste, mais donc là, vous avez parlé par rapport au préjugés et par rapport au tabou, parce que comment vous faites pour faire en sorte qu'il y ait de la parole, peut-être vous n'avez pas réponse parce que c'est un peu compliqué comme question, mais comment faire en sorte qu'il y ait de la parole, qu'il y ait de l'échange quand les élèves ne veulent pas en parler, quand les élèves ont des tabous justement sur toutes ces questions, si vous...
Alors, pareil, tu pourras compléter, Camille, mais moi, l'impression que j'en ai quand même, c'est que quand on ouvre la parole sur ces questions-là, la parole, elle vient. Qu'après, c'est une manière peut-être d'emmener la discussion qui fait qu'à un moment donné, on va arriver sur des enjeux un peu plus sensibles, un peu plus intimes, etc. Mais rarement, j'ai été confrontée à des groupes où rien ne sort, où il n'y a rien qui est exprimé. Et j'ai l'impression plutôt que c'est des moments dont on s'empare parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour en parler. Je dirais ça déjà comme premier point. Et après, sur la question du tabou, les tabous, ils ne sont pas les mêmes pour tous. Donc déjà, le fait aussi d'en parler en groupe, je pense que ça va amener d'autres choses auxquelles tu n'auras pas forcément pensé toi-même, que tu n'oseras pas forcément porter à voix haute. Et puis, il se trouve que ta camarade à côté de toi, elle va poser une question. Et en fait, même si ce n'est pas toi qui l'as posée, ça chemine aussi parce que tu participes, tu entends, etc. Donc je pense déjà que la modalité de groupe et de discussion collective, elle a aussi cet enjeu-là d'aller lever les freins qui peuvent exister individuellement en chacun d'entre nous.
Je peux rajouter quelque chose parce que nous, on fait des ateliers au CIDFF, on intervient aussi. Et en effet, c'est un peu l'enjeu, c'est d'arriver en posant le cadre dans lequel on définit déjà qu'est-ce que c'est un tabou. Et on pose tout de suite le fait que là, dans les 2 heures à venir, on peut oublier les tabous et porter toute parole et toute opinion dans le respect de ne pas dire des choses désagréables pour les autres. Voilà, et donc en effet, je rejoins le fait que d'habitude, ça marche plutôt pas mal.
Moi, je me pose la question de savoir si finalement, c'est pas pire qu'il y ait des programmes qui aient été mis en place. Parce que du coup, j'ai l'impression que les assos qui sont justement plus dans l'éducation populaire, comme le planning familial, ont peut-être moins la possibilité d'intervenir, même si tout à l'heure vous disiez que c'était quand même possible. Et est-ce qu'au final, ça va pas être justement de l'enseignement hyper descendant et où la parole émerge moins et où on est plus en train d'expliquer la vie aux élèves? Et du coup, est-ce que c'était pas mieux quand les assos extérieurs intervenaient et que du coup là, enfin voilà, c'est un peu ma question.
Moi, je peux répondre avec ma casquette de parent. En effet, moi, je trouve que les programmes, ils sont réducteurs et ils sont un peu bloquants à plein d'endroits. Parce qu'ils viennent déjà dire de quoi on est censé parler et de quoi on n'est pas censé parler. Et ils viennent dire aussi en creux que l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est un peu comme si c'était n'importe quelle matière. Qu'on pouvait aborder comme une autre matière alors que c'est pas le cas. Alors que bon, quand on le lit en détail, il y a quand même écrit qu'on est censé, que les profs sont censés le mettre en œuvre avec des principes d'éducation populaire. Bon, est-ce qu'ils ont lu jusque-là et est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Je suis pas sûre. Parce que, moi je travaille au planning à côté, je fais de la formation à l'INSPE, donc dans les formations initiales des profs. Et les profs, ils ont beaucoup de difficultés à se décaler de leur posture de prof. C'est-à-dire que d'un coup, ils ne doivent plus être en mode prof, pap, c'est moi qui dis et tout. Et ils doivent laisser la parole, laisser peut-être une parole plus spontanée. Alors, oh, on a peur que ce soit le bordel d'un coup en classe, mais comment on va gérer ça? Et du coup, c'est hyper déstabilisant, en fait, de se décaler. Et puis, je pense qu'il y a des profs aussi qui sont en mode « Mais moi, laissez-moi faire de la SVT, en fait. Enfin, je veux pas après être « Ah oui, la prof avec qui on a parlé de trucs hyper intimes. J'ai besoin, en fait, de cette posture dans mon taf. » Et du coup, oui, ça peut mettre en difficulté, je pense, plein de profs qui voient les programmes et qui voient aussi la manière dont ils sont censés tenir ces séances-là et qui se disent « Mais moi, je n'ai pas signé pour ça, entre guillemets. » Voilà ce que je peux en dire.
Oui, pas signé pour ça et pas formé pour ça aussi, en tout cas pour l'instant. Et je pense que c'est une bonne chose quand même qu'il y ait ce programme parce que ça impulse quelque chose. Dans l'idéal, en fait, avec davantage de moyens, on serait formé par le planning familial, par exemple. Voilà, moi j'ai assisté pendant 5 ans à des séances, ça m'a déjà pas mal apporté aussi. Je me sens déjà peut-être plus équipée que d'autres personnes. J'ai aussi fait suivi des formations de mon côté. Donc, tous les enseignants ne le feront pas, effectivement, c'est peut-être une question sur laquelle il faudra aussi travailler en équipe, que ce soit dans les écoles primaires ou dans les établissements secondaires. Donc, En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un combat syndical, on en parlait tout à l'heure, hein, le collègue en parlait tout à l'heure. On veut des moyens aussi pour mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on fait une politique de mise en place d'un nouveau programme. Eh bien, en fait, c'est difficile de mettre en œuvre des politiques sans moyens. Et les subventions des associations diminuent. Nous, on n'a pas plus d'horaires, on n'a pas d'horaires pour nous former. Donc, voilà. Mais on pourrait, voilà, en luttant et en ayant ces moyens-là, et en travaillant justement, en apprenant des professionnels, j'ai bon espoir que ça puisse être. C'est pas gagné, mais je ne pense pas que ce soit pire, disons. Voilà.
Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le fait que l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est une matière qui n'est pas comme les autres. C'est que c'est un accompagnement qui nécessite qu'on mette de côté ses représentations. Et en fait, ça demande vachement de temps. Et je vois, par exemple, les profs là, que j'accompagne à l'INSPE. Bon, on a 2 jours avec eux, donc c'est vraiment très, très short. Mais... en fait, ils sont avec leur représentation, ce qui est normal. Mais du coup, si par exemple, on leur pose la question, j'en sais rien, est-ce que c'est normal d'aimer les filles et les garçons? En fait, il y en a plein, ils vont répondre si c'est normal ou pas. Alors que justement, à cet endroit-là, on va leur demander de ne pas répondre. Et de laisser l'espace à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en ressentez? C'est comment pour vous dans votre vécu? Donc c'est vraiment quand même vraiment différent de ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire répondre aux questions. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que ça demande de la formation, mais aussi que y a plein de profs qui vont peut-être pas se le sentir, ou à tel moment aussi de leur carrière, moins qu'à tel autre. Et du coup, à tous ces profs-là, on leur dit « s'il vous plaît, faites intervenir des gens extérieurs, et vous mettez pas en galère avec ça, quoi ».
En tout cas, oui, pour faire le lien et rebondir sur ta question, je pense que ces programmes, ils ont le mérite de dire cette loi, elle existe et maintenant, il faut la mettre en œuvre étape par étape, niveau par niveau, chaque année. Vous devez vous pencher dessus en tant qu'établissement, avoir des projets d'établissement. L'idéal de l'idéal, vu qu'on arrive là vers la fin de cette table ronde et du coup, ça permet aussi de replacer ça, ça serait de se dire que c'est fait en concertation avec les structures qui sont formées et qui ont des outils pour ça, qui peuvent partager des questions de posture, parce qu'on parle aussi de posture professionnelle. Et en fait, selon moi, en tout cas, ça ne peut pas se mettre en œuvre en sortant les structures extérieures. Donc nous, c'est aussi un petit peu ce qu'on porte là, pour le coup, en tant que message, en tant qu'association de terrain, etc. Et on est en ce sens soutenu aussi par les enseignants et enseignantes qui ont bien conscience de leurs propres limites et de tout ce qu'on s'est dit sur les besoins de formation, les besoins de moyens, les besoins de temps. Et surtout, parce que ça ne s'improvise pas, l'enjeu, il est trop grand. Donc, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant, ça n'existait quasi pas. Donc là, l'enjeu, il est de dire tout le monde s'y met, quoi. Et si ça permet ce mouvement-là, très bien. C'est vrai que là, pour le moment, il y a encore beaucoup de si et d'hypothèses qui ne nous permettent pas de voir. Voilà. L'intérêt, par exemple, pour rebondir sur l'existence de cet observatoire, c'est de se dire, on va continuer à observer ce qui est fait, on va continuer à prendre le pouls, à aller voir les professionnels des assos, à aller voir les enseignants-enseignantes, à discuter avec l'éducation nationale, avec tous les financeurs qui financent ces actions aussi, puisque de toute façon, c'est aussi finalement une question d'argent. Et donc, on refera le point d'année en année, finalement, pour voir si ces programmes ils sont ou pas mis en œuvre. Mais là, on n'en est que au début de ça, plus de 20 ans après le vote de cette loi. Donc, en fait, on est qu'au début. Oui, Camille.
Je voulais juste dire un dernier mot. S'il y a des parents qui ont envie de rejoindre notre tout nouveau collectif pour œuvrer à la mise en œuvre de l'EVARS dans les écoles maternelles et primaires, on a notre prochaine réunion jeudi 4 décembre à 18h et vous pouvez avoir l'adresse en écrivant sur le mail bulle-mars@proton.me. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour ça.
une question.
Et bah merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à la mixité ou la non-mixité dans ces espaces. En fait, c'est quelque chose qui revient souvent, sauf que du coup, il y a certains élèves, évidemment, qui passent sous les radars. Et en même temps, la non-mixité, ça a aussi des bienfaits. Du coup, je voulais savoir comment ça se... Enfin, potentiellement, comment ça peut se gérer, en fait, dans les établissements. Parce que moi, j'ai déjà entendu des fois où, en fait, il y avait des... justement des moments comme ça qui étaient faits en non-mixité. Bah oui et non. Enfin, du coup... Voilà, je voulais savoir comment ça se gérait.
Oui. Ouais, c'est une question qu'on se pose tout le temps, qu'on se pose à l'intérieur des classes, qu'on se pose entre structures de terrain qui interviennent. Nous, au planning, on intervient en non-mixité. Et en même temps, ça nous arrive parfois de se dire pourquoi on le fait en non-mixité. Ce dont on s'est rendu compte quand même, c'était qu'il y avait une parole différente qui était partagée quand tu es par groupe ou pas. Certaines structures interviennent une séance en non-mixité et ensuite le groupe tous ensemble ou l'inverse. Ça peut être aussi une modalité d'intervention si tu as la possibilité de revenir plusieurs fois dans l'établissement, parce que c'est aussi ça la question. L'intérêt qu'on voit dans la non-mixité, donc c'est que cette parole, elle intervienne, qu'il n'y a pas les mêmes choses qui sont dites. Pour d'autres questions aussi, ça a été montré que la non-mixité avait un intérêt de pas, par exemple, repartir sur les bases d'un récit, de devoir expliquer, par exemple, pourquoi une situation de sexisme nous énerve, parce qu'en fait, potentiellement dans le groupe, on la partage. Donc, en fait, on va plus loin dans la discussion, on partage d'autres récits d'intimité. Et en même temps, parler tous ensemble, ça permet aussi de lever des questions, de confronter des idées, de débattre d'une autre manière. Dans l'idéal, parce qu'on est toujours dans une question d'idéal, moi, je pense qu'il faudrait avoir les deux. Mais il faut quand même, on va dire, permettre des espaces de parole safe. Et c'est un petit peu cet enjeu-là.
Oui, mais justement, du coup, pour les élèves, par exemple, qui sont pas bien dans leur question de genre, en fait, où est-ce qu'on, enfin, comment on fait pour choisir, enfin, eux, ils savent en fait. Mais du coup, si on choisit la non-mixité, bah forcément, ils vont pas se retrouver dans peut-être le
en général,
bon
groupe. On les laisse choisir. Hein. On les laisse choisir. Enfin, quand okay. On travaille avec le planning familial, ces élèves-là choisissent le groupe dans lequel ils veulent intervenir. Ouais.
Oui, exactement. C'est la question du choix. Après, chacun va faire son choix en fonction de comment il se sent à l'aise, de sa représentation dans la classe, de à quel point il a parlé de ses questionnements d'identité, etc. Donc les choix peuvent être très différents selon les personnes, mais en tout cas, c'est un choix qui est ouvert dans le cadre des interventions du planning, mais en tout cas sur les structures de terrain qui interviennent, c'est des enjeux qu'on a en tête. Dans le cadre de l'éducation nationale, si j'ai bien compris, de toute façon, c'est en mixité. Mais encore une fois, nous, on argumente pour avoir encore la possibilité de le faire dans nos interventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Eh ben, je vais vous dire merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci aussi à vous d'y avoir assisté et d'être resté jusqu'au bout. On est vraiment ravis d'avoir pu parler de ça avec vous dans le cadre de Je crains des gains, parce que c'est un enjeu d'actualité qui nous concerne toutes et tous, j'ai l'impression, quelle que soit notre place dans la société et dans l'éducation. Je remercie Radio Galère d'avoir aussi porté ce plateau radio et je vous souhaite un bon festival. Je crains des gains.
Et juste rappeler pour les personnes qui sont déjà à la friche ou qui veulent se joindre qu'il y a un autre plateau radio à 17h dans les studios de Radio Galère pour parler des questions de transidentité pour les enfants.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout. On m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, fille virile. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.